Monsieur le ministre, monsieur le préfet, messieurs les présidents et directeurs généraux, mesdames, messieurs, chers amis d'Émile Zola, nous voici à notre rendez-vous d'automne, au pèlerinage littéraire qui, depuis le début du siècle, réunit au premier dimanche d'octobre les plus grands noms des lettres, des sciences, de la politique contemporaine autour de la gloire d'Émile Zola. Là, de l'enfance à l'extrême soir, les plus anciens d'entre nous, et je suis l'un d'entre eux, ont entendu les messages les plus divers, des grandes voix qui appartiennent à l'histoire, d'Octave Mirbeau à Blasco Ibáñez, de Paul Boncour à Henri Barbus, plus récemment François Mitterrand. Et cette année, ce pèlerinage qui s'inscrit en lettres de ferveur et de fidélité au calendrier littéraire de la France a pour hôte d'honneur Robert Badinter, garde des Sceaux, qui incarne pour nous la justice en France. Pour célébrer l'auteur de Germinal et de J'accuse, nous avons la fierté d'accueillir un de ceux qui s'inscrivent directement dans la ligne d'Émile Zola, de l'écrivain qui, comme Voltaire, a ajouté à toutes ses gloires celle d'un autre procès Calas, qui a souffert plus personnellement, plus profondément encore pour la justice, lui qui, au prix de sa liberté, a défendu l'innocent Alfred Dreyfus. Permettez-moi d'abord, monsieur le garde des Sceaux, de vous exprimer notre gratitude pour avoir aussitôt accepté d'être des nôtres, de marquer du prestige de votre talent, de votre courage, de votre haute mission gouvernementale, le pèlerinage 83 des Amis d'Émile Zola. Et je suis fier et heureux de saluer la présence de monsieur le ministre Michel Rocard, qui, à tant d'égards, serait mon très très bienveillant. Pour beaucoup d'organisations où j'assume quelques responsabilités dont j'ai gardé le souvenir reconnaissant, de saluer la présence de M. Jean Gattegnaud, directeur du livre et de la lecture du ministère de la Culture, dont j'ai éprouvé la sympathie autour de la mémoire d'Henri Barbus, de l'auteur du Feu, qui inaugure une exposition sur Émile Zola et les peintres de son époque. Et puisqu'à notre beau programme, nous avons Madeleine Robériou, notre amie, professeure à l'Université de Paris 8, vice-présidente du musée d'Orsay, auprès de qui j'ai si longtemps siégé au comité central de notre vieille Ligue des droits de l'homme. Nous savons qu'à travers elle va rayonner un peu de la lumière de Jean Jaurès. Jaurès qui a été le soleil de mon adolescence, avec qui j'ai eu le privilège de passer une soirée chez Alfred Dreyfus, et qui voulut bien émailler le propos qu'il dédiait au petit étudiant que j'étais, de poèmes, des vers de Corneille et de Victor Hugo. Et merci de tout cœur à vous, mes amis de toujours et les plus jeunes, admirant comme nous l'œuvre et la pensée d'Émile Zola, au nom de tous les souvenirs qui s'attachent pour moi à ce pèlerinage. Merci d'être venus nombreux et fraternels à cette rencontre du génie littéraire et de la justice. Ainsi, voilà 81 ans qu'Émile Zola nous a quittés. Le temps de deux guerres mondiales, d'un vieux monde qui s'écroule, d'un monde nouveau qui s'édifie. Grâce à Émile Zola, à travers lui, pour nous les enfants de ce siècle, qui ont appris à lire dans les Rougon-Macquart comme dans les Misérables de Victor Hugo, l'image d'Alfred Dreyfus dans le climat d'intolérance et de haine antisémite qui a baigné certaines de nos enfances, incarnait à jamais celle de l'innocent persécuté. Tous les Dreyfus du monde, sous tous les régimes, devenaient nos frères. Il ne pouvait y avoir de dignité, de morale, d'honneur de vivre si l'on acceptait telles injustices. Ainsi, tout au long de ce siècle, nous avons appris dans ses livres et dans sa vie le strict attachement à la justice individuelle et aussi cette volonté de justice sociale qui nous permettrait de compléter l'œuvre de la Révolution française. Ainsi, Émile Zola nous accompagnait dans nos études, dans nos combats des guerres et de la paix. Il était près de moi, avec son admirable disciple Henri Barbus, dont mon escouade d'infanterie en 1916 à Verdun et dans la Somme, puis dans les luttes généreuses de la jeunesse et après notre Deuxième Guerre mondiale dans les combats plus tragiques de la résistance. Pas un événement de notre siècle ou de l'aurore au dernier crépuscule, Émile Zola n'ait été notre guide et notre lumière. Le calendrier de ce lointain passé nous offre un bouquet d'anniversaires glorieux. Il y a 100 ans, 1883, Émile Zola publiait « Le bonheur des dames », cet hymne à la libre entreprise où s'affirmait le désir d'une juste rémunération, de juste pouvoir réservé à tous ceux qui collaborent, et où rayonne la gracieuse et noble figure de Denise, dont le prénom allait être celui de la fille bien-aimée d'Émile Zola. En cette même année 1883, dans la grande fresque qui continue la comédie humaine de Balzac et qui y ajoute les aspirations, les révoltes de la deuxième moitié du siècle, paraît la joie de vivre. 1893, il y a 90 ans, l'épopée des Rougon-Macquart vient de s'achever. L'épopée des Rougon-Macquart vient de s'achever par le docteur Pascal. Le sang de la science rédemptrice et la France littéraire, sous la présidence de Raymond Poincaré, alors ministre de l'Instruction publique, célèbre avec ce dernier livre un des plus illustres romanciers de l'univers contemporain. Achevons d'étoyer le calendrier. En 1903, il y a 80 ans, Émile Zola est mort depuis un an dans son hôtel de la rue Bruxelles au cours d'un accident dont on n'a pas encore percé le mystère, mais Jacques Zola, son fils, a toujours cru à la réalité du crime. Après fécondité, après travail, paraît le troisième de ses évangiles, Vérité. Vérité, transposition romanesque de l'affaire Dreyfus. L'officier est devenu un instituteur de village, accusé d'un crime de mœurs, invraisemblable et monstrueux, accusé à cause de sa religion, de ses origines. Marc Froment, son collègue, se dresse alors seul pour le défendre. Il lui faut, pour se jeter dans la mêlée, briser durant quelques années l'union d'un amour parfait mais prisonnier des forces de haine. Il lui faut se priver de son foyer, de son épouse, de sa fille, pour ne pas manquer à ses devoirs d'honnête homme. Mais la vérité finit par triompher pour la plus grande gloire de l'innocent et de ses défenseurs. Marc Froment, comme Émile Zola, a vaincu. Me permettra-t-on, mesdames et messieurs, en admirateur de toujours de ce troisième évangile, me permettra-t-on d'observer qu'on a peine à imaginer, alors même qu'on a reçu en ces premières années l'écho de luttes violentes entre l'école laïque et l'école congréganiste, après l'union sacrée de 1914 qui nous a marqués, qui m'a marqué très profondément, après l'union plus étroite encore de la résistance entre celui qui croyait au ciel et celui qui ne croyait pas, on a peine à imaginer que de telles divisions puissent se placer demain sur un tel terrain. Mais dans la perspective toujours actuelle d'Émile Zola, demeure l'illustration de la laïcité, respectueuse de toutes les convictions, école de la liberté, école de la fraternité. Depuis notre dernier pèlerinage, les amis chers nous ont quittés. Tout d'abord Gisèle François Zola, dont le charme, l'accueil chaleureux, les hautes qualités intellectuelles et morales restent présents en nos cœurs. À François, le fils de mon ami Jacques, j'exprime notre peine et notre affection. Nous avons perdu le grand romancier Armand Lanoux, secrétaire général de l'Académie Goncourt, dont l'œuvre se rattachait directement au naturalisme, depuis son premier livre de captivité, Le commandant Watrin, et qui avait avec sa biographie « Bonjour, Monsieur Zola », cette biographie robuste et chaleureuse avec son émission télévisée « Zola et la conscience humaine » conquis un immense public, familiarisé les jeunes avec l'œuvre et la vie de l'auteur de Germinal. Mais je ne voudrais, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, je ne voudrais prolonger plus longtemps ce simple propos qui est un propos de souvenir et de bienvenue. Nous sommes impatients de vous entendre, monsieur le garde des Sceaux, pour le thème et pour l'orateur, et notre espoir en vous écoutant se confortera de voir s'élever bientôt un musée Émile Zola dans un décor, monsieur le représentant de monsieur le maire de Poissy, qui a tant de titres à glorifier l'histoire artistique de la France. Un dernier mot personnel, et si vous le permettez, familial. cher Jean-Claude, cher François, cher Simone, je voudrais vous dire mon attachement au génie dont l'œuvre rééditée, traduite, adaptée au théâtre, au cinéma, à la télévision, a victorieusement traversé ce qu'on nomme les purgatoires de la postérité. Vous redire que, anciens et jeunes, nous saluons en Émile Zola notre maître, notre ami, qui marche, comme l'écrivait Henri Barbus, au-devant de la jeunesse, au-devant de l'avenir. Donner la parole à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Ah non, c'est Mme Rabier. C'est Mme Rabier, n'est-ce pas? Alors, Mme Rabier, vous. Et j'aurais dû excuser également, nous le prenons tout à l'heure, un certain nombre de personnalités qui ont été absentes et qui sont représentées, notamment M. le maire à Réus, M. Mas de Huarus, conseiller général maire de Poissy, Monsieur le Président du Conseil Général des Yvelines, Monsieur Tenaillon, et alors Monsieur Palais, Directeur Général de l'Assistance Publique, qui me fait l'honneur d'être représenté par Monsieur Patrice, Chef du Service de l'Inspection Générale de son administration. Et je passe la parole à mon ami et collègue, Madame Rabier.
Merci. Il y a 80 ans, chers amis, naissait, non pas mes dents, mais le pèlerinage de mes dents. Effet d'un amour, celui qu'Émile Zola avait nourri pour cette maison, pour son jardin, pour sa solitude. Effet d'un drame, la disparition un an plus tôt du père des Rougon-Macquart, de l'ami de Cézanne, puis de Manet, du héros de l'affaire Dreyfus. En ce 80e anniversaire, j'ai un peu honte, moi qui ne suis nullement une spécialiste de Zola, de prendre la parole en ce haut lieu. Si parmi les historiens, quelqu'un eût dû parler ici, aujourd'hui, c'est bien Jeanne Gaillard, notre ami et mon ami, qui nous a quittés brutalement il y a moins de 2 semaines. Sa grande thèse sur le Paris du Second Empire, ses travaux sur la boutique affrontée au grand magasin, et donc sur le bonheur des dames, sa connaissance quasi philosophique des confins de l'Empire et de la République, bref, de ces années où Zola est devenu vraiment Zola, ses travaux partagés avec Colette Becker, tout l'avouait à ce qu'elle fut, une grande zolienne. Faut-il ajouter qu'elle avait été, en son temps, la plus jeune agrégée de France, comme Vincennoise, et Vincennoise par choix, c'est ainsi qu'on appelle mon université. Je ne survalorise pas les diplômes ni les concours. J'aimerais mieux, en lui disant adieu, rappeler que Jeanne situait l'histoire aux confins de toutes les disciplines, et d'abord de la littérature, et que c'est peut-être une des raisons de l'inventivité historique dont, jusqu'au jour de sa mort, elle n'a cessé de prodiguer les preuves. Aussi vais-je me limiter à quelques réflexions très générales, trop générales, nées de ce débat sur la modernité qui alimenta cet été, d'une certaine manière, les pages d'un grand quotidien du soir, pendant que du Grand Palais au Centre Pompidou, un peuple nombreux disait bonjour à M. Manet, et que de Manet à Zola, de Zola à Cézanne, ce thème relançait, autour du maître de Médan, le débat engagé un peu plus tôt à propos de l'architecture postmoderne. Modernité. Le mot a donc été à la mode cet été. Quand Baudelaire le charge pour la première fois de sens en 1863, quand Baudelaire évoque ce quelque chose qu'on nous permettra d'appeler la modernité, quand il s'en sert pour cerner d'un mot non seulement les croquis fugaces de Constantin Guis, mais l'œuvre de Manet, avec qui il s'était lié depuis quelques années, et dont il avait, avec le déjeuner sur l'herbe, avant même le déjeuner sur l'herbe et l'Olympia de 1863, la musique aux Tuileries et Lola de Valence, ses deux œuvres majeures de 1862, marquaient l'entrée dans la modernité, Zola a 23 ans à peine. Il vient de trouver chez Hachette un emploi stable de commis. Il n'a guère écrit encore. En tout cas, il n'a rien publié. La modernité, écrit Baudelaire, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent. C'est la mode du corps qui s'accorde aux passions. ou les passions qui s'accordent à la mode. Ce qui, au cœur du Second Empire, l'intéresse dans ce concept, ce n'est pas la volonté d'y trouver une clé pour la compréhension globale du monde moderne, mais le désir, contre les canons académiques du beau éternel, d'en valoriser la fugacité et de charger l'instant qui passe de tout le spleen de Paris. La rue assourdissante de la grande cité chasse à l'aube le silence précaire de la nuit. La ville, cette capitale qui, sous la direction d'Haussmann, se prépare à refouler les usines, mais en même temps à accueillir les foules nouvellement urbanisées, Manet l'aime lui aussi, mais autrement. Avec cette franchise dont Zola lui fait à bon droit éloge, il en évoque à la fois les joies évidentes, mais aussi, et sans que la classe ouvrière émerge dans son œuvre, l'oppression. La joie d'abord. Pensons à cette musique aux Tuileries que nous avons découverte cet été, et où, plus subtil que la fête impériale, se love le plaisir de vivre. Pensons à la gare Saint-Lazare, où le spectacle de ce lieu symbolique du monde moderne se fait rêve, pour la fillette comme pour sa mère. La joie, mais aussi l'oppression. Une oppression comme culturelle dont il faut aller chercher très loin et non sans imprudence les racines sociales. Elle se lie dans l'étonnante impuissance à communiquer entre eux ou dans le refus de communiquer qu'assument les personnages nés du pinceau du peintre. D'Olympia, la prostituée au regard froid comme un couteau, aux trois spectateurs du balcon, privés entre eux de tout lien. Du trio, encore un, qui se lève de table à la fin du déjeuner dans l'atelier, à Suzon, la forte serveuse du bar des Folies Bergères, la dernière fois. Comme le dira Jaurès, après Marx, il est vrai. Toutes les classes, tous les êtres sont atteints, sont marqués, par cela même qui donne sa force à l'époque et lui confère ses puissantes couleurs. L'individualisme capitaliste, la destruction des modes anciens de sociabilité. Nous savons aujourd'hui, par les travaux de Maurice Agulon, qu'elle ne fut pas totale, cette destruction. Et nous savons aussi que des formes nouvelles allaient naître. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que décidément la modernité de Manet ne tient pas seulement à sa libre manière de traiter l'espace, au contraste de ton puissant où il est passé maître, et qui souligne d'ailleurs son originalité au regard des autres impressionnistes. Elle ne repose pas non plus seulement sur les sujets qu'il nous donne à voir. Peut-être se nourrit-elle surtout des thèmes sourds qu'il nous permet, le premier et jusqu'à Van Gogh le seul, d'entrevoir. Lorsque, lors du scandale d'Olympia, Zola se jeta à corps perdu dans la défense de Manet, il n'en évoqua étrangement que les nouveautés picturales. C'est en critique d'art, attaché à la pleine autonomie de la peinture, que, au-delà de formules générales sur la vérité, il défend celui qui allait devenir son ami. Souvenez-vous d'Olympia. Il vous fallait, écrit Zola, s'adressant à Manet, des taches claires et lumineuses, et vous avez mis un bouquet. Il vous fallait des taches noires, et vous avez placé dans un coin une négresse et un chat. Qu'est-ce que tout cela veut dire, continue Zola? Vous ne le savez guère, et moi non plus. La modernité à cette date et à ses yeux était là, dans ce refus des conventions de l'école, dans cette liberté du peintre qui a besoin pour créer de transgresser les règles. En avançant dans la vie, Zola, me semble-t-il, a petit à petit modulé le sens de son adhésion au moderne. Voyons un peu. 20 ans plus tard, Manet est mort. Les réunions du Café Gerbois ont cessé. En 1886 se tient la dernière exposition des impressionnistes. Un groupe d'amis se défait. Où chercher la modernité? Cette même année, dans l'œuvre, ce chef-d'œuvre, ce roman du souvenir, Zola raconte l'histoire de l'échec de Claude Lantier. À travers ce récit tragique, émerge l'idée que ces peintres, dont il a 20 ans plus tôt, parmi les premiers, salué les audaces et souligné l'accord avec leur temps, sont peut-être aujourd'hui dans une impasse. On sait que le grand Cézanne, son ami d'enfance, ne supporta guère que Zola ne fît pas plus longtemps confiance à sa quête obstinée de la cohérence, à sa volonté de constituer un jour toute toile en un objet où se fondraient les masses et les couleurs. On peut se demander, en fait, si petit à petit, aux yeux de Zola, La modernité n'avait pas changé de territoire culturel. Si elle n'avait pas émigré ailleurs. En 1879, il lui arrive encore, non sans réserve d'ailleurs, de définir les peintres impressionnistes comme des pionniers, avec le roman expérimental, à quelques mois de distance. C'est pour les romanciers qu'il revendique avant tout cette mission, devant l'inconnu, qui prend forme sociale en 1880, quand le régime républicain semble consolidé, la fonction prospective du romancier tend à l'emporter sur celle du peintre, aux yeux de Zola, même si c'est le peintre qui a enseigné au romancier la manière et l'art de regarder. Elle l'emporte aussi désormais, cette fonction, sur celle de l'homme politique, fut-il républicain. Le politicien est soumis à ses ambitions, à ses désirs de curé, dit Zola. Le peintre, lui, est romancier, le romancier dit le vrai. Elle l'emporte même, cette fonction du romancier, en raison de sa puissance intuitive sur celle du savant. Comment peut-on entendre ce langage, ce mouvement dans la pensée du maître ? Zola a acquis la conviction que la modernité réside finalement dans l'acte de dévoilement social. Par-delà la hâte et le charme des villes, par-delà le silence des êtres, il s'agit pour le romancier, si d'autres en seraient capables, de construire de puissants mythes sociaux à partir de microsystèmes assemblés en faisceaux cohérents. Colette Becker l'a écrit, la mine dans Germinal n'est pas seulement un dédale d'escaliers, de galeries et de boyaux semblables à celui du labyrinthe antique. Elle est le labyrinthe, le repère du monstre voreux, semblable au Minotaure, qui se nourrit de chairs humaines. Les sombres profondeurs propices aux tragédies ne sont pas seules au service du récit mythique. Ce que les mineurs arrachent au sol du Valenciennois, c'est en cette fin du XIXe siècle où l'électricité commence à conquérir droit de cité, commence seulement à conquérir ses droits de cité, le pain de toute l'industrie moderne. Dans un à Carmaux, les grèves de mineurs mobilisent les passions. C'est le sort de la vie nouvelle, industrieuse et industrielle, que leur labeur incarne et que leur sort évoque. C'est pourquoi, dans ce cas exemplaire, le roman peut se construire sur le mythe de l'affrontement du capital anonyme et du travail, infiniment éclaté, certes, susceptible pourtant de se rassembler. À l'arrivée solitaire d'Étienne, au début de Germinal, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou. Réponse en départ quand s'ouvre la dernière page. Les camarades étaient tous là. Ils les entendaient le suivre à chaque enjambée. C'est qu'un grand mythe ne provient ni de l'accumulation d'exactes observations, ni d'un envol imaginaire. C'est une image guide. À ce temps des ouvriers, qui s'ouvre dans les années 1840 et va durer jusqu'à la fin des années 1940, jusqu'à l'aube des Trente Glorieuses, Zola a su, loin de l'éphémère baudelairien, et par d'autres voies que celles naguère ouvertes par Manet, construire un mythe social séculaire. Ce n'est pas le seul. Quelques années plus tard, en 1893, le président le rappelait tout à l'heure, voici avec le docteur Pascal le 20e et dernier volume des Rougon-Macquart. Il sort des presses l'année où, stimulé par l'élection de Jaurès à Carmaux en janvier, en avant-première, le socialisme entre en force à la Sambre. Cinquante-et-nous d'un coup, d'un socialisme parfois douteux, mais enfin. C'est le groupe parlementaire qui, en l'absence d'un parti unifié, est alors chargé de leur donner l'estampillage. Zola, dès 1894, entreprend très vite la publication des villes, et il va bientôt, en 1899, commencer celle des évangiles. Il retrouve alors l'espoir de communautés ouvrières qui illuminaient, certes dans l'illusion, le bonheur des dames. Le soleil l'emportera dans ce duel universel qui oppose, au-delà du capital et du travail, les forces élémentaires éternelles, mais incarnées dans le siècle, de l'ombre et de la lumière. Du mythe, il transite en somme vers la grande utopie romanesque. Sa vision de la modernité n'aurait-elle donc pas à nouveau bougé à travers travail? C'est la volonté d'engendrer les temps et non plus de dire son temps qui l'emporte. Mais ne touchons-nous pas là au problème de toute modernité. Dire le bel, le terrible aujourd'hui, mais aussi annoncer les lendemains. Surtout en ces dernières années, l'entrée de Zola dans l'affaire Dreyfus, entrée tempétueuse au sens shakespearien du terme, recèle une autre approche du monde moderne, où se croisent la vision immédiate et la prescience de l'avenir. Appelons-la cette vision politique au sens le plus haut du mot, même si Zola reste à l'écart des luttes proprement politiques auxquelles le dreyfusisme a été mêlé. En plaçant ses premières interventions publiques dans l'affaire, en décembre 1897, sous le signe de la dénonciation de cet imbécile poison, l'antisémitisme, en appelant à la jeunesse, à l'ouvrière future, pour qu'elle soit toujours avec la justice, et qu'elle ne commence pas le siècle nouveau dans le racisme, en massacrant tous les juifs, ou dans l'injustice, en manifestant pour maintenir au bagne un innocent, en publiant un mois plus tard J'accuse, c'est à la fois comme acteur direct d'un des plus hauts moments de notre histoire contemporaine que se situe Zola, et comme lecteur lucide des tragédies de notre XXe siècle. Défenseur sous l'Empire, comme critique d'art des peintres d'avant-garde, bâtisseur comme romancier des mythes sociaux modernes dans les Rougon-Macquart, acteur comme intellectuel, et quel acteur ! Dans une bataille où s'est en partie dessinée, longtemps dans le brouillard, la configuration de notre temps, Émile Zola nous a proposé, tout au long de sa vie, sitôt abrégée, trois visages de la modernité. Nous l'en remercions.
Mesdames, Messieurs, j'ai été très sensible à l'invitation qui m'a été faite de venir parler ici et aujourd'hui d'Émile Zola. Chacun comprendra que ce ne soit pas de l'écrivain Émile Zola dont je fasse l'éloge. Ce n'est pas que comme nous tous, je n'ai, à ma façon, vécu avec lui et conservé en moi cette œuvre maîtresse. Chacun comprendra aussi que je n'envisage pas de faire devant vous aujourd'hui le récit si souvent retracé de l'intervention de Zola qui fut à coup sûr décisive dans l'affaire Dreyfus. J'ai choisi une autre approche. J'ai tenté de retrouver, et je veux tenter d'évoquer aujourd'hui devant vous, en ce pèlerinage annuel des amis d'Émile Zola, ce qu'a vécu, ce qu'a souffert l'homme Émile Zola et ce qu'a signifié en termes d'épreuves son combat pour la justice et pour la vérité. Au-delà du combattant, j'ai voulu retrouver l'homme. Au-delà de l'histoire, j'ai tenté de rechercher la dimension humaine de la lutte. En un mot, je souhaite évoquer devant vous la passion judiciaire d'Émile Zola, et c'est à dessein que j'utilise le terme de passion, parce que je crois qu'il recouvre bien à la fois l'âme et le destin d'Émile Zola. D'abord une interrogation. Pourquoi son engagement ? Sans doute, il y a toujours un moment dans la vie d'un homme où l'injustice interpelle sa conscience. Et plus encore, quand il s'agit d'un homme de vérité et quand l'injustice est fondée sur le mensonge. Et il est évident qu'à ces deux titres, Zola ne pouvait pas échapper à l'affaire Dreyfus. Mais Zola aurait pu, comme tant d'autres, lutter simplement avec les armes du talent, avec celles de la conviction, aux côtés de France ou de Lucien R., aux côtés de Peggy ou de Blum. Délibérément, et c'est de là dont je crois il faut partir, Zola a choisi la place la plus exposée. Il fut ce volontaire rêvé. À cette nuit du 12 janvier 1898, où la lampe brûla jusqu'à l'aube dans le bureau de Zola, à la surprise des voisins, qui savaient que M. Zola était plutôt un écrivain du matin, et qu'il était de ceux dont le génie, pour s'exprimer, préfère le rythme tranquille de l'artisan. Cette lampe, dessinant son cercle de lumière, dans cette nuit tranquille d'un immeuble au cœur d'un quartier bourgeois dans la grande ville ensommeillée. Ce cercle d'or dans les ténèbres de l'injustice qui ensevissait la France. Comment Zola aurait-il pu dormir cette nuit-là? Depuis 48 heures, le mensonge, l'injustice, le crime même, triomphait et, semble-t-il, de façon définitive. Esterhazy, le coupable, avait été acquitté le 11 janvier à l'unanimité par le Conseil de guerre. Picard, l'homme de vérité, avait été mis aux arrêts, était accusé d'avoir fabriqué le petit bleu. Scheurer-Kastner, juste entre les justes, avait été évincé de la vice-présidence du Sénat. Selon les paroles de Léon Blum, nous étions là, atterrés, désespérés devant les débris de notre œuvre manquée entre nos mains. Ce fut un de ces moments où toute croyance se retire, où l'on se sent perdu et isolé dans un monde à jamais hostile. Zola, lui, ne pouvait accepter en ces termes cette défaite ni cette humiliation. De son refus est né cette nuit-là, j'accuse, le cri le plus fort qu'ait jamais jeté la conscience humaine à la face de l'injustice. L'histoire en fut certes changée, mais à quel prix pour Zola. Sans doute avait-il, tout au long de sa carrière, connu l'insulte et la calomnie. Elles sont d'ailleurs les compagnes inévitables de ceux qui refusent la commodité des chemins battus, l'hypocrisie du conformisme et qui ouvrent à l'art ou à la pensée des voies nouvelles. Mais entre tous, Zola avait été la cible privilégiée de l'ordre établi, de ceux pour lesquels le simple fait de penser, de sentir, de s'exprimer autrement est déjà comme une menace pour l'ordre établi. Et surtout, Zola les avait mis à nu. La société bourgeoise de la fin du XIXe siècle n'avait pas assez changé depuis le Second Empire pour que Eugène Rougon ne fût toujours présent à la Chambre, Saccard à la Bourse, Nana aux Champs-Élysées et Lantier à l'Assommoir. L'état-major qui avait vécu Sedan n'oubliait pas la débâcle, ni le clergé, la conquête de Plassans. Et les possédants voyaient se lever dans Germinal les aubes tant redoutées,
on ne défie pas sans risque une société à laquelle on représente son vrai visage. Cette nuit-là, l'homme qui écrit « J'accuse » n'ignore rien de la haine qui l'entoure. Certes, à force de lutte, il a conquis succès, gloire, considération même, et puis le bonheur. En tout cas, autant que son âme inquiète lui permettait de l'éprouver. Cet homme de 58 ans, enfin comblé, savait bien tout ce qu'il avait à perdre en se jetant dans la mêlée, en publiant « J'accuse ». Et je pose la question, qu'avait-il donc à y gagner, sinon à accomplir sa passion ? Il savait bien que rien ne résiste à la force de la vérité, mais il savait aussi qu'il n'est pas d'homme qui puisse refuser de répondre à l'appel de la justice, sauf à perdre pour toujours l'honneur d'être un homme. Mais il savait aussi, Zola, que le défi qu'il jetait au nom de la conscience humaine, au crime et au mensonge, serait relevé contre lui par les forces les plus puissantes du pays. Il était trop lucide à son âge pour ne pas mesurer aussi le prix qu'il aurait à en acquitter en souffrance. Et c'est cette lucidité, à l'instant de l'engagement, qui fait de Zola un héros de justice. Au matin du 13 janvier 1898, lorsque Zola porta son texte à l'Aurore, qu'il le tendit à Vaughan et à Clémenceau, son choix était fait. Car après « J'accuse », la mise en accusation de Zola était inévitable. Devant la France entière, il avait souffleté le ministre de la guerre, l'état-major, les chefs des renseignements, les bureaux de la guerre, en les dénonçant tous comme des traîtres à la vérité. Le défi était jeté publiquement, rappelez-vous, qu'on me traduise donc en cour d'assises et que l'enquête ait lieu en plein jour. Le gouvernement de l'époque était lâche, mais il ne pouvait reculer sous peine d'avouer. Ce fut donc le procès Zola. De ces audiences, le temps nous permet aujourd'hui de prendre la dimension historique. Il est vrai que sans le procès, sans Laborie, sans Picard, jamais n'aurait été publiquement reconnu par le général de Pellieu l'existence du dossier secret qui rendait dès lors inévitable la révision. Et jamais non plus ne serait apparue aussi crûment la collusion du mensonge et de l'antisémitisme, des intérêts politiques et d'une conception aberrante de l'honneur de l'armée, préférant couvrir le crime plutôt que de le châtier et dénonçant ceux qui voulaient établir la vérité comme des faussaires et des traîtres. Ainsi, il est vrai, grâce au procès Zola, la vérité reprit sa marche, que l'acquittement d'Esterhazy semblait avoir définitivement suspendu. Mais pour Zola lui-même, pour cet homme de cabinet, pour ce bourgeois paisible, quelles épreuves dans cette bataille judiciaire. Sans doute, l'écrivain, par habitude ou tempérament professionnel, notait par touches brèves, au long des audiences, je cite, la façon esthétique dont se composent les audiences comme autant d'actes d'un drame poignant construit par un grand artiste, sans oublier naturellement le milieu pittoresque, l'assistance, les avocats, les dessinateurs, les têtes à gifles, le jury muet, sans une question, et les effets de jour, les nuages qui passent et qui assombrissent la salle, les coups de soleil sur le mur quand je regarde en l'air, et la fin de la séance lorsqu'on allume le gaz. Mais ce refuge dans l'observation, cette volonté de détachement dans la contemplation, n'effaçait pas l'épreuve de l'arrivée au milieu des bandes hurlant leur haine, que la police ne retenait que bien mollement et au tout dernier moment, devant le fiacre qui conduisait Zola au palais, ni l'humiliation du départ au terme des audiences par des itinéraires dérobés qui donnaient le sentiment de fuir à l'homme dont toute la volonté était d'affronter la meute, ni la quotidienne abjection d'une partie de la presse qui avait trouvé en Zola, déjà détesté par beaucoup de ses lecteurs, le bouc émissaire idéal. À relire les journaux de l'époque, de la libre parole aux petits parisiens, un haut-le-cœur nous saisit encore à un siècle de distance. Et l'on comprend, devant les infamies où se complaisaient certains écrivains, certains caricaturistes de l'époque, et non des moindres, le propos de Madame Zola, écrivant à Madame, le propos de Zola, pardon, écrivant à Madame Alfred Dreyfus, depuis que nous nous battons pour la vérité et la justice, l'ignoble flot a tellement grossi autour de nous que nous en sortons cuirassés à jamais, invulnérables aux blessures. Pour mon compte, il est des feuilles immondes, des hommes de boue que j'ai rayés de ma vie. Ils ne sont plus. Je passe leurs noms quand ils me tombent sous les yeux. Je saute jusqu'aux extraits qu'on peut citer de leurs écrits. C'est de l'hygiène, simplement. J'ignore même s'ils continuent d'exister. Mon mépris les a chassés de ma pensée en attendant que l'égout les prenne tout entier. Mais surtout, on l'oublie trop, il y eut la douleur secrète de la condamnation. Nous oublions aisément aujourd'hui à voir se dérouler l'affaire Dreyfus comme un film à épisodes dramatiques dont chacun connaît par avance la fin heureuse, que l'affaire Dreyfus, c'est d'abord une série éclatante de décisions judiciaires qui bafouent la justice. C'est Dreyfus innocent, condamné deux fois, une première fois en 1894 au mépris de la loi et une deuxième fois en 1899 au mépris de la vérité. C'est Picard, arrêté, jeté hors de l'armée pour faute grave dans le service. C'est Zola, par trois fois, condamné pour diffamation, c'est-à-dire pour avoir menti. Pourquoi ? Pour avoir écrit « J'accuse ». C'est aussi Esterhazy, lui, acquitté à l'unanimité par le Conseil de guerre, alors que l'on savait qu'il était l'auteur du bordereau qui avait fait condamner Dreyfus. C'est Déroulède, acquitté lui aussi par la cour d'assises de la Seine pour avoir voulu prendre d'assaut l'Élysée à la veille de l'arrêt de révision. Jamais, dans aucune affaire, l'on a vu aussi constamment l'innocence condamnée et le crime absous. Et c'est, en définitive, à la cour de cassation, à ces magistrats dont Rochefort appelait la foule à crever les yeux, que la justice française doit d'avoir sauvé son honneur. Ce jour du verdict, le 23 janvier, l'attente fut interminable. Zola dut demeurer terré, dans un cabinet de magistrat, tandis que la foule autour du palais clamait sa joie du verdict qui le condamnait à 1 an de prison ferme, le maximum de la peine. Enfin, écrit Zola, nous sommes partis vers 8h30, par le pont Neuf et le quai, le pont de la Concorde, la place de la Concorde, au milieu d'un Paris brumeux, vide, muet, noir. Zola avait lutté. Zola avait gagné, puisque la vérité avait enfin été publiquement dite et que, dès lors, rien ne pouvait plus l'arrêter. Mais ce soir-là, Zola n'était plus qu'un homme condamné par les juges de son pays, vide, muet, noir. Le ciel de Paris n'était que le reflet de l'âme de Zola épuisée. De pires épreuves l'attendaient encore. Je ne parlerai pas des insultes qui l'accompagnaient partout, ou des lettres abjectes qu'il recevait chaque jour, ou pire encore, des dessins immondes qu'on adressait à sa fillette, où il était représenté les yeux arrachés ou recevant l'or à poignée du syndicat juif, ou marionnette dont Guillaume II tirait les ficelles, ou bien crachant sur le drapeau tricolore, ni de sa suspension de l'ordre de la Légion d'honneur, ni de l'agression dont il fut victime, ici, très près d'ici, à Médan, par un groupe d'hommes, dont 9 soldats qui le mitraillèrent de cailloux, ni du second procès devant la cour d'assises de Versailles, le 23 mai 1899, dont la première audience fut préparée par le Petit Journal, publiant le matin même du procès une biographie mensongère de François Zola, son père, appuyée sur des faux et le représentant comme un escroc, ni de sa condamnation le 9 juillet, pour diffamation à une peine de prison et à des dommages-intérêts considérables, au profit des 3 experts graphologues qui avaient accablé Dreyfus en lui attribuant la paternité du bordereau dont on savait pourtant maintenant qu'il était l'œuvre d'Esterhazy. Non, je ne parlerai pas de ces épreuves-là. La pire pour Zola, ce fut l'exil. Qu'on me pardonne une réflexion. Pour Laborie, qui était un grand stratège judiciaire, il importait avant tout, et je le comprends parfaitement, que la condamnation qui avait été prononcée à Versailles et au dernier moment par défaut contre Zola ne devienne pas définitive avant que la Cour de cassation n'ait pu se prononcer sur la demande en révision. Pourquoi ? Parce que pour Laborie, il fallait que Zola puisse un jour comparaître à nouveau devant des juges et après que la Cour de cassation ait établi l'innocence de Dreyfus et par conséquent la véracité de J'accuse. Pour Laborie donc, pénétré de sa stratégie judiciaire, Zola devait quitter la France, éviter que l'arrêt lui soit signifié, en un mot disparaître et disparaître à l'étranger jusqu'à ce que la vérité ait fait des progrès décisifs. Mais pour Madame Zola, au contraire, mieux valait que la passion de Zola s'accomplit en entier. Mieux valait qu'il assumât l'épreuve jusqu'à son terme, qu'il accepta la prison et que pas une seconde il n'eut l'air de fuir. L'intelligence était du côté de Laborie, le cœur du côté de Madame Zola. La plupart, je dirais presque tous les amis consultés, opinèrent pour le départ. Zola s'y résigna, permettez-moi, après y avoir longuement réfléchi cet été, de vous dire que ce choix de Laborie, je le regrette. Imagine, en effet, un instant, l'écrivain arrêté, conduit à la santé entre deux gendarmes, Zola incarcéré, aurait été la réplique vivante de Dreyfus au bagne. À l'innocence enchaînée à l'île du diable, aurait répondu la vérité emprisonnée à Paris. La souffrance de l'un, faisant écho au martyr de l'autre, dans une affaire où tout était devenu symbole, il y aurait eu, dans cette accumulation parallèle d'injustice et de douleur, une telle puissance de mobilisation des consciences que la honte de l'emprisonnement de Zola, s'ajoutant à l'infamie de la détention de Dreyfus, aurait fait exploser, j'en suis sûr, les verrous de l'injustice. Et puis, imaginons les détails. Zola conduit à la santé au milieu de la foule hurlant sa haine contre lui, comme jadis contre Dreyfus. Dans la cour de l'école militaire, Zola, visité jour après jour dans sa prison par tout ce que la France et l'Europe auraient compté de plus grand et de plus noble dans le monde de la pensée et des arts. Et jour après jour, les manifestations et les contre-manifestations se succédant devant les murs où Zola aurait été détenu. Pas un gouvernement n'aurait pu résister longtemps à un tel soulèvement des consciences. Et Zola, magnifié par sa détention, refusant de demander sa grâce, attendant dans sa cellule l'aurore inévitable de sa libération forcée par les progrès de la vérité, les aveux et le suicide d'Henri, la démission de Boisdeffre, la fuite à l'étranger d'Esterhazy. Et imaginons, mes amis, le triomphe de Zola quittant la prison, porté sur les épaules des membres de la Ligue des droits de l'homme, entouré du bataillon sacré de tous les hommes de justice et de vérité. Oui, j'en suis convaincu, l'épouse voyait plus clair que l'avocat. Madame Zola avait raison contre Laborie. L'heure n'était pas à l'habileté, elle était à la passion. Et alors, l'édifice monstrueux du mensonge aurait été balayé plus vite par la force irrésistible de nez de la vision de l'écrivain martyr de l'injustice. Et sans doute le fut-il, mais dans le secret, mais dans le silence. Et dès lors, en une telle bataille, presque inutilement, il avait fui Zola, non par peur, mais par raison, à la souffrance de l'exil, pour cet homme pour laquelle la France et Paris étaient presque tout, patrie spirituelle, mais aussi patrie charnelle. À la souffrance de l'exil s'ajoutait dorénavant la cruauté du silence. Car pour ne pas être découvert, il fallait pour Zola non seulement se cacher, mais se taire. Quelques lettres à des amis, de rares visites, la lecture des journaux, c'était par ces moyens dérisoires qu'il participait encore au grand combat. Et au fond de lui-même, l'interrogation tenace devait sans cesse revenir. Ai-je bien fait de partir? Où aurais-je été le plus utile? À Paris ou à Londres? Et puis pour un homme d'un tel courage moral, quelle souffrance d'accréditer par son exil l'ignoble campagne sur sa lâcheté. Quelle souffrance d'avoir l'air de fuir la justice de son pays par crainte du châtiment. Quelle douleur a dû ressentir Zola tout au long de l'automne 1898 dans les douceurs de la campagne anglaise et ensuite tout au long de l'hiver et du printemps 1899 à Londres. Sans doute Jeanne et les enfants l'avaient rejoint. L'amour, le travail, qui sont les seuls baumes inépuisables, apaisaient sa peine. Mais je leur ai dit, mieux aurait valu pour Zola être ce Prométhée enchaîné, faisant entendre du fond de sa cellule la voix même de la justice. Et je suis sûr que Zola, grand artiste entre tous, ne pouvait pas ne pas ressentir au fond de lui-même, dans ces mois-là, la force de cette vision. Et à la douleur de l'exil volontaire s'ajoutait donc la cruauté du silence forcé, le doute quotidien sur le choix fait. En vérité, Zola, sa correspondance le crie à travers les lignes. Zola a sans doute plus souffert dans ce Londres paisible que dans le tumulte et les invectives du Paris de l'injustice. Cependant, le cours des choses s'y inversait. Félix Faure, destinataire insensible de J'accuse, venait à mourir. Loubet lui succédait. La Cour de cassation annulait, le 3 juin 1899, l'arrêt de 1894. Dreyfus était renvoyé à nouveau devant le Conseil de guerre pour y être jugé, cette fois-ci à Rennes. Le 5 juin, Zola regagnait la France. Il publiait, après 11 mois de silence, son premier article intitulé « Justice ». Le 1er juillet, Dreyfus, à son tour, débarquait en France. Le 18, Esterhazy se reconnaissait dans le Matin comme étant l'auteur du bordereau. La victoire de la vérité paraissait certaine. Et ce fut le désastre, la honte pour notre justice. Le 9 septembre 1899, après un mois d'audiences indignes à Rennes, Dreyfus, par 5 voix contre 2, fut à nouveau déclaré coupable d'intelligence avec une puissance étrangère. Mais le Conseil de guerre lui reconnut des circonstances atténuantes, lesquelles, et le condamna à seulement 10 ans de réclusion. Face à ce monstrueux verdict, bien pire que le premier, parce que les juges ne pouvaient ignorer l'innocence de Dreyfus, parce qu'il ne s'agissait plus cette fois-ci d'une erreur judiciaire qui peut advenir, mais bien d'un crime judiciaire. Zola, hors de lui, souffrant physiquement d'un tel attentat à la conscience humaine, dès le lendemain, écrivit, ou plutôt jeta un nouveau cri de révolte. « Je suis dans l'épouvante. » Quand on aura publié le compte-rendu in extenso du procès de Rennes, il n'existera pas un monument plus exécrable de l'infamie humaine. L'ignorance, la sottise, la folie, la cruauté, le mensonge, le crime s'y étalent avec une impudence telle que les générations de demain en frémiront de honte. Et Zola, pour montrer qu'il ne concédera jamais rien à l'injustice, jette à nouveau le défi. Rendez-vous à Versailles le 23 novembre. Ce jour-là, en effet, le procès de J'accuse devait recommencer. Et en ce nouveau débat résidait toute l'espérance de Zola de voir enfin proclamer publiquement en justice l'innocence de Dreyfus et aussi voir reconnaître par des juges le bien fondé, la vérité de son accusation à lui, Zola, de son « j'accuse », eh bien cette satisfaction-là, cette réparation-là, elle ne lui furent jamais donnée. Jamais le procès Zola ne sera replaidé devant des juges. Jamais Laborie ne plaidera plus pour Émile Zola. L'affaire sera renvoyée de mois en mois. Et Zola jamais ne se verra ainsi reconnaître par la justice son innocence. Pour avoir écrit « J'accuse », l'acte qui a le mieux servi la justice dans toute notre histoire. Car dorénavant, l'heure politique est à l'apaisement, ou plutôt à l'étouffement. Le 19 septembre, le président Loubet gracie Dreyfus. On comprend Dreyfus et sa famille d'avoir accepté cette grâce. On comprend aussi que Laborie et Clémenceau ne s'y soient jamais résignés. Pardonner à l'innocence, c'était bien l'outrage ultime à la justice.
Zola, lui, dans son admirable lettre à Madame Dreyfus, a compris et les uns et les autres. Sans doute, Madame, cette grâce est amère. Mais il faut oublier, Madame. Il faut surtout mépriser. Et Zola conclut, nous autres, Madame, nous allons continuer la lutte, nous battre demain pour la justice, aussi âprement qu'hier. Zola n'en eut pas le temps. Après l'humiliation de la grâce, la confusion de l'amnistie, le 14 décembre, par une même loi, tous furent amnistiés, Picard comme Mercier, Reinach comme Dupaty-Duclam, et Zola comme Esterhazy. Il fallait apaiser la France, disaient les politiques. Pour y parvenir, on faisait table rase, on jetait ensemble dans une confusion insupportable. Et ceux qui avaient commis le crime, et ceux qui l'avaient dénoncé, et ceux qui avaient nourri l'injustice, et ceux qui avaient servi la justice, et les faussaires, et les hommes de vérité. Le 22 décembre 1900, l'Aurore publia une nouvelle lettre au président de la République, signée Émile Zola. Elle résonne étrangement comme un adieu. À l'indignation, ne trouvez-vous pas que la loi de votre gouvernement qui m'amnistie, moi innocent, dans le tas de coupables que j'ai dénoncés, est vraiment une loi scélérate ? Succède l'ironie. On nous a bien promis, en dédommagement, la justice de l'histoire. C'est un peu comme le paradis qui sert à faire patienter sur cette terre les misérables dupés que la faim étrange. Et l'on ajoute que lorsque nous serons tous morts, c'est nous qui aurons les statues. Zola ne connaîtra jamais la revanche. Par une forme souveraine de mépris, il refusera même à Laborie de plaider contre les experts graphologues, je l'ai rappelé, qui avaient accablé Dreyfus et qui avaient fait condamner Zola à leur verser pour avoir dénoncé simplement leur incompétence des dommages-intérêts considérables. Je ne vous vois pas, écrit-il à Laborie, disputer en mon nom 5000 francs à Judet. C'était le directeur du Petit Parisien condamné pour ses faux envers le père de Zola, François Zola. Ou bien pour rattraper les 30 000 francs des experts. Et il rappelle Zola à Laborie que son éditeur avait dû verser pendant son exil en Angleterre 7 500 francs en paiement des amendes et des frais du procès de Versailles. Pensons à Méline. Accusant Zola à la tribune de la Chambre de n'avoir écrit
j'accuse que pour augmenter le tirage et la vente de ces livres. Pensons aux accusations constamment répandues et constamment reprises contre Zola d'être le valet de plume payé par les Juifs ou par l'empereur d'Allemagne. En réalité, l'affaire Dreyfus a coûté à Zola 50 000 francs or, près de la moitié de ce qu'il avait, avec son sens bourgeois de l'économie, épargné en une vie de labeur forcené. Non pas que Zola attachât de l'importance à l'argent, son comportement en témoigne, mais là encore, comment n'aurait-il pas ressenti comme une blessure secrète le contraste entre son désintéressement profond et la cupidité forcenée où ses ennemis voulaient voir la source de son engagement ou, pour employer leurs termes, de sa trahison. Rappelant la hâte des experts, à faire vendre ses meubles pour toucher le prix de l'injuste condamnation, Zola disait à Laborie, leurs trois noms sont à jamais gravés sur un monument impérissable. Laissez-les galoper avec les poches pleines, qu'ils gardent l'argent. Et il y aura dans l'affaire un peu plus de bassesse. C'est sur cette amertume qui révèle la plaie ouverte et jamais refermée que s'achève son histoire. Dans sa lettre au président Loubet, Zola avait une seconde laissé filtrer l'aveu. Un peu de justice sur cette terre nous aurait pourtant fait plaisir. Elle lui sera refusée. Le 29 septembre 1902, Zola fut trouvé mort asphyxié dans sa chambre. L'enquête conclura à l'accident. Beaucoup refuseront d'y croire. Trop de haine environnait encore l'auteur de J'accuse. Trop de fureur meurtrière aussi. Celle qui avait fait tirer sur Laborie pendant le procès de Rennes, celle qui blessera Dreyfus lors du transfert des cendres d'Émile Zola au Panthéon en 1908, celle qui anime Rochefort, écrivant au lendemain même de la mort de Zola un article immonde. Et même si une foule immense accompagne Zola le 5 octobre au cimetière Montmartre, même si Anatole France salue le héros par les mots que de génération en génération nous répétons pieusement, sa destinée et son cœur lui furent le sort le plus grand. Il fut un moment de la conscience humaine. Même si Zola demeure présent en chacun de nous, par son œuvre et par son exemple, il reste que Zola, vivant, n'aura jamais connu. Le triomphe de la vérité et de la justice auquel il aspirait tant et auquel il avait tant sacrifié. Il fallut attendre le 5 mars 1904 pour que soit déclarée recevable la nouvelle requête en révision présentée par Dreyfus lui-même, le 12 juillet 1906 pour que la Cour de cassation casse enfin sans renvoi le verdict de Rennes et prononce la réhabilitation de Dreyfus. Le lendemain, Dreyfus est réintégré dans l'armée comme chef d'escadron, Picard comme général de brigade. Justice est faite. Enfin, les a la lui. Il ne l'aura pas salué sur cette terre. De l'entreprise qu'il a conduite au service de la justice et de la vérité, Zola n'aura éprouvé que les luttes, les blessures, jamais la victoire, seulement le combat. Libérateur de la vérité, il est mort sur la route de la libération. Sans doute, sans lui, la justice aurait fini par l'emporter. Mais sans Zola, assurément, la victoire n'aurait pas revêtu le même éclat, la même force qui fait que, d'âge en âge, à chaque fois que se lève l'injustice des hommes qui se dressent et qui la combattent, rappelle le nom de Zola. Et c'est en pensant à l'homme Zola qu'à mon tour, je répéterai les mots mêmes qu'il adressa à Alfred Dreyfus le jour où celui-ci retrouva la terre de France. Mon cœur déborde. Et je ne puis que vous envoyer toute ma fraternité pour ce que vous avez souffert. Et c'est ce que nous avons de meilleur, de plus noble, de plus tendre que je voudrais mettre dans cette lettre pour que vous sentiez que tous les braves gens sont avec vous et nous, voilà.